Ce passage que vous nous avez montré, Henri Van Leer, du monde 2 au monde 3, c'est-à-dire du monde de la forme grecque, intégré par ses parties intégrantes et assumant en elle sa matière, niant presque sa matière et se détachant, se prélevant sur le fond, le passage de ce monde-là au monde de l'élément en fonctionnement, avec ses distances internes, mais peut-être aussi avec sa menace de non-intelligibilité, va être refusé par quelqu'un, par Claudel, qui, au contraire, lui, voyant que l'Occident s'en allait, et le monde méditerranéen, et le monde de la Bible, a essayé de retotaliser en lui les 2500 ans qui précédaient. Alors, pourquoi, comment ?
Je crois qu'il faut d'abord saisir l'homme, Claudel, et en particulier bien voir, au départ, son animalité. Je peindrai ici l'image du porc. C'est une bête solide et tout d'une pièce, sans jointure et sans cou. Ça fonce en avant comme un soc. C'est vraiment l'homme, Claudel. Cahotant, nous dit-il, sur ses quatre jambons trapus. C'est une trompe en marche qui quête. Et toute odeur qu'il sent, y appliquant son corps de pompe, il l'ingurgite. Que s'il a trouvé le trou qu'il faut, il s'y vautre avec énormité. Ce n'est point le frétillement du canard qui entre à l'eau. Ce n'est point l'allégresse sociable du chien. C'est une jouissance profonde, solitaire, consciente, intégrale. Tout rond, avec un petit tressaillement, il s'avance et s'enfonce au grassin de la boue fraîche. Il grogne, il jouit, jusque dans le recet de sa triperie. Il cligne de l'œil. Amateur profond, en tout, il cherche la nourriture, il l'aime riche, puissante, mûrie, et son instinct l'attache à ces deux choses fondamentales, c'est l'instinct qui est fondamental, fondamental au masculin, à ces deux choses fondamentales, la terre, l'ordure. Et d'où la rencontre de cet animal, de ce paysan animal avec la Chine. C'est Chine, dit-il, à l'état de friture perpétuelle, grouillante, désordonnée, anarchique, avec sa saleté épique, ses mendiants, ses lépreux qui vont jouer un rôle capital chez Claudel, au moins trois ou quatre personnages qui sont des lépreux. Toutes ces tripes à l'air, nous revenons au recet de la triperie, mais aussi avec cet enthousiasme de vie et de mouvement. Je l'ai absorbé d'un seul coup, je m'y suis plongé avec délice. Et en même temps que la Chine, il y a l'Afrique. Donna Proès qui dit « Quel est donc cet appel irrépressible ?» Et donc ami qui répond « Dites-moi que vous ne l'avez pas ressenti vous-même, l'appel de l'Afrique !» La terre ne serait point ce qu'elle est, si elle n'avait ce carreau de feu sur le ventre, cet antre fumant, ce fourneau où vient se dégraisser l'ordure, tiens encore, l'ordure, de toutes les respirations animales. Alors nous sommes dans un monde d'organes. Pas tout à fait les organes de Rabelais avec leur coaptation, son trop d'urine à mon lardois, non, c'est pas ça. Sont des organes qui se suffisent, qui sont plus grecs que chacun des organes grecs, et renvoyant directement à leur tout, avec chez Claudel des, ce qu'il appelle des assoiements, des appuiements, des tirements. Tout ça est rempli de mains, de pieds, de cuisses. Je cite, « Il tient à la vie de la terre qu'il a entre ses pieds. » Mourir, c'est descendre dans le vide, cuisse ouverte. Car de quoi un prince est-il revêtu, que du ruissellement de son peuple, de ses épaules à ses talons. Pour un enfant, qu'il me grandisse sous le bras. Parlant d'une femme qui cherche, elle se débrouille, elle s'y reconnaît comme une bête, à la fois à l'odeur et au dedans de l'âme. Et là, il faut faire bien attention à ce que veut dire l'âme chez Claudel. Et c'est le souffle vital, c'est très proche du corps. L'anima de Claudel, c'est quelque chose qui est quasiment biologique. Le mot que j'aurais dû d'ailleurs faire saillir davantage tout à l'heure, c'est le mot vie. La vie pure, c'est cet amour aussi fort que moi, sous mon désir, comme une grande flamme crue, comme un rire dans ma face. D'où la menducation est capitale. Et je note dans son journal, l'acte de manger, note ça pour lui-même, comprend, écoutez ça, c'est toute la phrase claudélienne, l'appréhension, l'écrasement, l'humectation, la déglutition, le mélange, l'assimilation. Oh, que nous sommes dans un des trois grands ventres de la littérature française, comme avec Balzac et avec Bossuet. Même l'esprit, même le pneuma est une bouche. Il dira qu'on va tenir les choses dans la bouche de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est ce pneuma? C'est chez lui, chez ce barfreur. C'est d'abord la connaissance, qu'il écrit connaissance. C'est naître avec, c'est l'absorption du monde entier, comme totalité rendue à la fois intelligible et sensible. Et c'est ce qui va le séduire dans le christianisme, c'est que le verbe s'est fait chair, et verbum caro factum est. Ou comme dit saint Jean, quod manus nostre contracta verunt de verbo vitae. Ce que nos mains ont palpé ensemble du verbe de vie. Mais en même temps que ce ramassement, le pneuma, c'est la déhiscence, c'est le déboîtement, c'est le non-bonheur. Il n'y a rien pourquoi l'homme soit moins fait que le bonheur et dont il se lasse aussi vite. Ce qui fait que cette sorte de truie, cet animal digéreur et totalisateur est en même temps, selon son mot, un désacclimatisé. Il ne dira pas un désacclimaté, c'est très claudélien ça. Un désacclimatisé. C'est celui qui est en même temps le lépreux. C'est celui qui répète sans cesse « Je ne suis pas là ». Et le premier mot, ou un des tout premiers mots de son journal, comme tout le monde l'a fait remarquer, c'est « Faudé parietem ». C'est un mot d'Ézéchiel. Parietem, c'est la paroi. Eh bien, la paroi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la fuir, il faut la labourer, il faut la travailler pour atteindre le dedans. Il y a une sorte de crevaison perpétuelle de l'être chez Claudel. Sartre avait dit fortement de lui, c'est le gros plein d'être. Sans doute, c'est le gros plein d'être. Mais cet être est en perpétuelle transverbération. À tout moment, des héros et des héroïnes sont traversés de glaive et en écartèlement. Si on voulait peut-être trouver une image pour résumer toute la topologie claudélienne, il faudrait bien voir que c'est la croix, mais pas du tout la croix du Christ. C'est pas du tout la croix dressée avec une verticale et une horizontale, c'est la croix de Saint-André, c'est-à-dire un chiasme sur l'horizon, quelque chose qui est autant horizontal que vertical. Et il note d'ailleurs très joliment l'opposition entre les lettres romaines et les lettres chinoises. La lettre romaine a eu pour principe la ligne verticale, comme la croix chrétienne d'ailleurs. Ça c'est moi qui ajoute. Le caractère chinois paraît avoir l'horizontale comme trait essentiel. La lettre d'un impérieux jambage, la lettre donc occidentale, avec son impérieux jambage, affirme que la chose est telle. Le caractère chinois est la chose tout entière qu'il signifie. Et toute chose est quoi? Elle est cette plénitude d'intelligibilité que nous tenons dans la bouche de l'esprit, mais en même temps, cet écartèlement, ce crucifiement volontaire, et cette croix de Saint-André est, chez Claudel, c'est le mot claudélien par excellence, c'est la joie, qui fait que tout participe, c'est la fameuse participation de l'être que nous avons rencontré chez Perceval et chez Lancelot, mais ici, en insistant, peut-être parce que nous passons de ce monde 2 à ce monde 3, sur le côté éclaté de l'intérieur de tout cet ensemble holistique. Le dieu de Claudel écrit droit avec des lignes courbes. C'est ce qu'il met en tête du soulier de satin. Deus scrive direitu por lineas tortas. Ou si vous voulez une formule encore plus rapide que celle de Saint-Augustin et qui est etiam peccata. Ce qui est intéressant pour lui dans la saisie chrétienne du monde, c'est que tout est repris, même les péchés, et que donc le péché lui-même va pouvoir obtenir toute sa splendeur, va pouvoir obtenir toute sa croissance paysanne, toute sa terre et toute son ordure, mais dans leur somptuosité. Alors, dans quel type de littérature va pouvoir s'exprimer cette précipitation de Truie, c'est-à-dire pré-caput, la tête en avant, tête baissée, cette précipitation et cette immédiateté de possession presque d'avarice claudélienne. Dans quel genre littéraire peut passer cette intolérance, mais cette intolérance qui va de tous les côtés et qui dit le oui, qui dit le non, qui dit le bien et le mal, le ici et le là-bas, et également l'ordre et le désordre. Ça ne peut être que le théâtre. Un théâtre, ou alors nous allons rencontrer quoi? Des individualités? Des personnages avec leurs problèmes? Avec leurs âmes singulières? Absolument pas. Ça ne pourra être qu'un théâtre où vont se rencontrer les grands types tupos, les grands types, les grandes figures de l'univers. C'est-à-dire un théâtre qui soit le théâtre grec d'Eschyle, le théâtre de l'Orestie que Claudel va traduire tout entière, et dès le début, dès je crois à peu près 1895, et un théâtre qui soit en même temps un guignol. Proche du théâtre espagnol du XVIe, XVIIe siècle, puisqu'il est bien entendu que tout ça est en même temps sacré et en même temps follement cocasse. Il faut voir la pièce de Claudel. Et la pièce de Claudel, c'est Tête d'or, 1890, jamais sans doute, une littérature n'a atteint une pareille force brutale, aussi immédiate, à tel point que, pendant toute sa vie, on a demandé à Claudel de représenter Tête d'or, jusqu'à la fin, Jean-Louis Barrault a insisté, et pour finir, Claudel, qui voyait qu'il n'y avait pas moyen de faire bouger cette pièce, bien qu'il l'ait écrite, réécrite deux fois, trois fois, note ceci dans une lettre à Jacques Madaule, « Je ne vois qu'une issue, c'est de faire jouer Tête d'or dans un stalac par des prisonniers entre des barbelés et sous le bombardement des avions. Là, une nouvelle fois, nous pourrions retrouver ce théâtre à l'état naissant. Le prisonnier tuberculeux qui jouerait le rôle de Cébès mourrait vraiment. » Je crois qu'il faut répéter qu'une violence pareille n'est possible sans doute qu'à une de ces fractures majeures dans l'histoire humaine dont j'ai essayé de parler, cette épouvante aussi qu'a peut-être créée la première perception du fameux deuxième principe de la thermodynamique, Donc nous allons vers une mort de l'univers. Qu'est-ce que c'est que tête d'or? C'est un homme qui voit ce que c'est que la mort, et ayant vu ce que c'était que la mort de sa femme, puis la mort de son meilleur ami, va percevoir l'absolu non-son. Mais qui n'est pas celui de la racine du jardin des plantes de Sartre, qui est une sorte d'absurde calme. Non, un absurde grouillon et proprement monstrueux. Voici les premiers mots. C'est Sébé, celui qui va mourir, qui parle. Me voici. Ça va revenir tout le temps chez Claudel, ça. Hein? Isée, je suis, Mesa, c'est moi. Me voici. Une individualité? Pas du tout. Imbécile. Ignorant. Homme nouveau devant les choses inconnues. Et je tourne la face vers l'année. Avec un grand A. Et l'arche pluvieuse. J'ai plein mon cœur d'ennui. Je ne sais rien. Et je ne peux rien. Que dire, que faire? À quoi emploierai-je ces mains qui pendent? Ces pieds qui m'emmènent comme les songes? Pour finir un personnage, c'est ça, c'est les mains, c'est les pieds. Il voit arriver Simon, qui va devenir tête d'or, qui est tête d'or, qui enterre sa femme. Il la dépose, et déjà là, tête d'or a pris parti pour la monstruosité. Et au moment où il la couche, pas ainsi qu'elle repose la face contre le front. Et nous n'avons pas fini. Il faut que Cébès meure maintenant. L'ami de tête d'or. Tête d'or. La mort n'est rien. Pour tête d'or, rien n'est rien. Rien n'est plus rien. Souris. Ne veux-tu point sourire? À ce moment, il va pouvoir comprendre la dernière racine du pouvoir. Le pouvoir brut. Le pouvoir au nom de la mer. Au nom de l'orage. Par le retentissement du tonnerre et le poumon sulfureux de la foudre rose. Le pouvoir. Par l'attelage des vents qui traînent leur roule. Il est devenu ce qu'il appelle un taillis de membres. À quoi vais-je employer ma foule, cette foule qu'il est lui-même? Et elle n'est plus, parle de sa femme, et elle n'est plus. Elle ne me tient plus aux épaules, réfléchissant, me soufflant à la face sa jeune haleine. Alors quoi, tout est fini? Alors c'est ça, et ça c'est tout, tout ce monde claudélien. Et cependant, hier, comme elle dormait, il sait qu'elle va mourir à ce moment-là, comme elle dormait, je sortis pour voir ce que je serais le lendemain. C'était la nuit, et mon cœur fut plus lourd qu'un soc. Mais voilà que, comme je marchais, tout à coup, je sentis ma vie à moi. Ah voilà. C'est que tout peut mourir. Il y a là une force absolument brutale, absolument aveugle, et qui est le pouvoir même. Je sentis ma vie à moi. Cette chose qu'aucune femme n'épouse, qu'aucune mère ne berce, qu'aucun contrat n'engage. Elle veillait au-dedans, les yeux ouverts. Cette chose reste seule, et comme un père sévère, ne s'inquiète pas de notre jeu, mais au milieu de nous, elle est sourde, comme une chenille ensevelie dans la soie de sa métamorphose, et elle commande, pareil au ventre, à qui on ne désobéit pas. Il est intéressant de remarquer qu'au même moment, à peu près, Uburois, ou les Polonais, qui commencent comme ceci. Père Ubu. Merdre. Mère Ubu. Oh, voilà du joli, Père Ubu, vous êtes un fort grand voyou. Père Ubu. Que ne vous assomme-je, Mère Ubu? Mère Ubu. Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. Tête d'or aussi va prendre le pouvoir. Et il ressemble étrangement d'ailleurs, enfin étrangement avec des différences énormes, mais au Père Ubu. Le Père Ubu a quel système de gouvernement? Il s'appelle Ubu. Il se suffit totalement à lui-même. Il part du U labial, revient au U labial avec la labiale centrale. Il est Ubu, et d'ailleurs il se représente sous la forme d'un œuf. Et quel est son système de gouvernement? Pas merde qui nous enverrait dans les étoiles, mais merdre qui est un système, qui part, qui est quelque chose de clos, où les deux R sont en train d'entourer le D, soutenu d'ailleurs par M, exactement comme le U renvoie au U dans Ubu. Ceci pour faire sentir à quel point, au même moment, il y a un autre guignol. Et comment le guignol claudélien, le guignol de Jarry, traduisent sans doute cette même cassure fondamentale de la langue que nous avons essayé d'indiquer. Et nous pouvons renouer avec Tête d'Or. Il prendra le pouvoir uniquement comme pure force de la nature, devant des gens qui ont la force physique, mais qui n'ont pas la vie au sens où elle a été définie. Il va tuer le roi. À la fin de la pièce, nous trouvons Tête d'Or, qui a fait des conquêtes, qui a été blessé à mort, et qui se trouve à côté de la princesse, la fille de l'empereur qu'il a évincé, princesse qui est maintenant crucifiée par un déserteur, auquel elle avait d'ailleurs porté secours, mais crucifiée volontaire, comme Violaine donnera un baiser volontaire aux lépreux, et c'est un thème constant. La déhiscence, chez Claudel, ne vient pas de l'extérieur de l'être, mais de l'intérieur comme une modalité de sa vie même. Alors, à partir de Tête d'Or, on pourrait faire toute la dialectique de toutes les pièces de Claudel. Un Tête d'Or, la ville, la jeune fille Violaine, l'échange, le repos du septième jour, partage de midi, l'annonce faite à Marie, l'otage, le pain dur, le père humilié, le soulier de satin. Tout ça repris 2, 3 et 4 fois. Et c'est tout à fait normal. Il est impossible que l'être que nous avons décrit avec cette immédiateté, cette intolérance, écrive une œuvre construite décisivement. Par là, il fait, en même temps qu'à Échille, penser à Dostoïevski, dont tous les dictionnaires disent chaque fois « construit mal ses pièces », etc., mais atteint des niveaux que d'autres n'atteignent pas. On a un peu le même phénomène ici, on a l'impression que la commotion touchée est tellement violente qu'elle ne peut pas arriver à cette construction extrêmement complexe qu'est une pièce, par exemple, une pièce de Sophocle ou de Racine. Est-ce que tout cela suppose un langage? Oui, et Claudel en a fait la théorie au complet dans Réflexion et Proposition sur le vers français. Je crois que là, il y a presque qu'à suivre. C'est fait très clairement. On a presque l'impression à certains moments que c'est une esthétique générale et définitive, mais bien entendu, c'est quand même une esthétique claudélienne, c'est-à-dire répondant exactement à ses fins à lui. La première phrase est saisissante. On ne pense pas d'une manière continue, pas davantage qu'on ne sent d'une manière continue ou qu'on ne vit d'une manière continue. C'est bien toute son impulsivité, hein. Il y a des coupures, il y a intervention du néant. Tiens, ce mot néant commence à avoir une grande fortune. La pensée bat comme la cervelle et le cœur. Tel est le vers essentiel et primordial. Une idée isolée par du blanc. Et c'est ce que nous aurons probablement déjà senti dans les textes antérieurs, ces espèces de blocs qui arrivent sur nous d'une traite. La parole écrite est employée à deux fins. Ou bien nous voulons produire dans l'esprit du lecteur un état de connaissance, nous avons lié les idées, ou bien un état, de quoi? Voilà le mot claudélien, de joie. Rien plus loin, une sorte d'équivalent ou d'espèce soluble dans l'esprit. Nous plaçons dans la bouche secrète de son esprit, lecteur, donc vous voyez bien, l'esprit a une bouche, une énonciation de tel objet ou de tel sentiment qui est agréable à la fois à sa pensée et à ses organes physiques d'expression. Et c'est ça qui l'intéresse, lui. Il y aurait beaucoup à dire sur le vers des derniers drames shakespeariens, dit-il, dont l'élément prosodique principal paraît être l'enjambement The break. Écrit en italique. Le heurt. La cassure aux endroits les plus illogiques, comme pour laisser entrer l'air et la poésie par tous les bouts. Et alors, bien sûr, il va trouver somptueux que de royaumes nous ignorent. Il va trouver admirable chez Rimbaud. Et par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimmérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Mais, d'une part, comme vous le voyez, tout ce qui est la phonie ne va plus du tout avoir cette signification phonique qu'elle avait chez Mallarmé. Il parle simplement d'une joie, d'un bonheur dans lequel me mettent les voyelles et les consonnes. C'est une première limite. Et la deuxième limite, c'est que, bien entendu, tout ce qui ne respire pas au sens claudélien va être rejeté. Et donc, le texte pour lui le plus épouvantable de la langue française, c'est « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar ». Le lecteur, dit Claudel, a remarqué l'uniformité décolorée de ces syllabes sans vibration. C'est bien ce que nous avions à peu près dit, mais pour montrer que c'était là précisément le système flaubertien. L'auteur a réussi à éteindre le A lui-même, cette lettre cramoisie. Les trois de la première phrase ont exactement le même indice, et il en résulte une ligne absolument plate et sans aucun rythme. Les terminaisons masculines dominent, terminant chaque mouvement par un coup mat et dur, sans élasticité, sans écho. Le défaut du français, qui est de venir d'un mouvement accéléré, se précipiter la tête en avant sur la dernière syllabe, ce qui est tout à fait vrai, ça, n'est ici pallié par aucun artifice. L'auteur semble ignorer le ballon des féminines, qu'il admire évidemment chez Pascal. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau. Pensant le ballon de la féminine qui est le ballon de nature. Si Pascal avait écrit « L'homme est un roseau, mais c'est un roseau pensant », il restait rien, bien sûr. L'auteur semble ignorer le ballon des féminines, la grande aile de l'incident qui, loin d'alourdir la phrase, l'allège et ne lui permet de toucher à terre que tout son sens épuisé. Terminons d'un mot, peut-être celui de Violaine, dans l'annonce faite à Marie, moment où elle meurt, que c'est beau, une grande moisson. L'automne est le moment claudélien par excellence, c'est ce moment où tout est mort, où tout est consommé, et pourtant il y a un quelque chose qui est le cycle de l'année. Après avoir vu ainsi le christianisme, non pas tellement romain, tout ce qui garde Rome c'est le pape comme vieillard, c'est un anticlérical, Claudel, mais un christianisme plutôt oriental. Rien n'est plus proche du style de Claudel que le style des offices orientaux. Après avoir vu ce christianisme et aussi ce retour au rude rugissement hébraïque, comme il le dit, on pourrait dire aussi le rude rugissement d'Eschyle, après ce christianisme recreusé, radicalisé, nous allons trouver un athéisme radicalisé chez Valéry.